On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11 heures et quelques. Bienvenue dans l'invité de 11 heures et quelques en ce mardi 30 octobre. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Philippe Leroy. Bonjour Jean-Philippe, avant
bonjour.
Toute chose.
Bonjour, bonjour.
Avant même de te présenter. Alors attends, on a un petit... Voilà, ça y est, ça doit mieux fonctionner comme ça. On le refait. Bonjour Jean-Philippe Leroy.
Bonjour.
Voilà, effectivement ça fonctionne nettement mieux. Jean-Philippe Leroy, tu es caviste à Vin Authentique à Chabeuil, dénicheur de bouteilles. Et donc, comme vous le comprenez, on va parler vin, on va parler gourmandise. Gourmandise dans tous les sens du terme d'ailleurs, et passion avant toute chose. Alors Jean-Philippe, dans l'invité de 11 heures et quelques, qu'il y a un rituel, c'est que l'invité présente son parcours. Et alors avec toi, on est servi, parce que c'est un parcours dense, riche. Et puis quand je parlais de passion, je crois que c'est vraiment ce qui peut faire le fil rouge peut-être. De ce parcours. Alors comment on finit par devenir caviste à un moment de sa vie et en plus troisième, alors il faut le préciser, Jean-Philippe a participé au concours du meilleur caviste de France dont on parlera tout à l'heure et puis il va tout nous expliquer sur le sujet et il y a eu deux Dromois sur le podium, dont Jean-Philippe, qui est donc trophée de bronze. Donc félicitations quand même.
Merci beaucoup.
Avant
merci
toute
beaucoup.
Chose. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, voilà, qui est Jean-Philippe Leroy et comment il en est arrivé là?
Alors, c'est long. Hein.
On a du temps.
Voilà,
tout
on
va
a
bien.
Du temps, donc tout va bien parce que j'ai tendance un petit peu à parler pas mal. Et puis, du coup, une vie relativement dense et bien remplie depuis ma naissance en 1974. C'est vrai que donc aujourd'hui, je suis caviste à Chabeuil pour l'enseigne Vin Authentique que j'ai créée. Il y a beaucoup de choses avant cette arrivée en fait tardivement sur un nouveau métier. Moi, j'ai fait des études relativement longues dans le monde scientifique. Donc voilà, avec un baccalauréat sur l'informatique et l'électronique, et donc après un parcours d'études scientifiques, maths sup, maths spé, et puis une école d'ingénieur pour finir avec un doctorat en traitement du signal de la parole. Donc du coup, j'ai un parcours scientifique que j'ai fait durant ma carrière scientifique, différentes interventions dans des sociétés pour faire de la recherche. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui m'a passionné évidemment. La technique, j'ai travaillé dans le monde des télécoms, j'ai travaillé dans le monde de la médecine, j'ai travaillé dans le monde de l'industrie de marquage, enfin voilà, différentes choses. J'ai travaillé avec des personnes passionnantes. Je me suis rendu compte que j'aimais mon métier, j'aimais ma formation et travailler dans le monde scientifique. Ce que j'aimais pas, c'est l'environnement qu'il y a autour de toute la société. Il y a des choses qui ne correspondaient pas trop à ma philosophie de vie. J'ai pris conscience à l'âge de 30 ans de me dire attention, il faut peut-être réfléchir à quelle va être ma vie dans les 30, 35 ans qui vont venir. Et j'avais vraiment envie de me positionner sur quelque chose d'un petit peu plus, avec un contact plus humain, avec quelque chose de beaucoup plus proche de ma philosophie. Du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être créer sa propre activité par rapport à deux passions que j'avais, donc le vin, donc initialement le vin, et puis je serais tenté de dire le bien boire, bien manger m'a été inculqué par mes parents, puisque je suis originaire de la Bourgogne, région chablisienne, donc du coup ma mère grande cuisinière, et puis mon père sélectionneur de bouteilles de vin, qui m'ont j'ai baigné des repas d'amis, de famille les week-ends, donc ça m'a formé un petit peu le palais, on va dire. Et puis quand j'ai eu l'âge de déguster le vin, je suis rentré un petit peu dans ce monde viticole, ça m'a passionné. Toutes les sociétés dans lesquelles je suis passé, j'ai créé un club d'œnologie, de dégustation, pour réunir des gens, pour partager, parce que le vin, c'est aussi, la gastronomie, c'est du partage, c'est quelque chose qu'on partage, qu'on se met, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas, je vais pas m'ouvrir une bouteille de vin tout seul, même si ça peut arriver. C'est quand même quelque chose que j'aime partager. Donc créer ce lien social autour du vin, de la gastronomie, les discussions, les échanges, plus ou moins houleux, ça peut arriver aussi. Et donc, du coup, le vin reste quelque chose de quotidien. Je passe mes week-ends, la plupart du temps, quand je suis en activité professionnelle, dans les vignobles. Donc, du coup, j'appréhende un petit peu ce monde-là. Et puis du coup, je me forge une connaissance en fait autour du vin. Et puis j'ai une autre passion qui est la photographie. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a été inculqué par quelqu'un de ma famille. C'est un de mes oncles qui est photographe professionnel aujourd'hui sur Paris. Et donc du coup, moi, je suis pas un poète, je suis pas très fort avec les mots. Et du coup, je trouve que le moyen de s'exprimer par l'image me correspondait très bien. J'aimais plutôt les BD que les romans. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'initier à la photo. Donc mes parents me payent un appareil photo à l'âge de 7 ans. Je fais des photos. J'aime regarder, j'aime essayer de cadrer, faire des choses un petit peu rigolotes. Donc du coup, ces deux passions progressent un petit peu simultanément. Et puis au moment où je me pose la question de dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me plaise. Après, il ne faut pas être dans l'utopie non plus, c'est-à-dire qu'il faut en vivre.
Une réalité économique.
Exactement, vivre de sa passion, c'est le rêve de beaucoup de personnes, je pense, mais il faut être lucide, même si on a toujours un peu de folie, il faut rester un petit peu les pieds sur terre. Donc là, c'est peut-être mon côté plus scientifique qui me freine un petit peu et qui me rend la lucidité par rapport au côté un petit peu foufou et artistique. Je me suis dit, la photographie, monter un projet photographique, ça m'a trotté l'esprit. Je voulais partir sur de la photographie, on va dire, d'extrême. Donc partir vraiment sur les terrains un petit peu compliqués, faire du reportage sur les différentes guerres, etc. Enfin voilà, m'approcher un petit peu du monde dangereux. Et puis après, je me suis dit, est-ce que c'est bien? Les personnes de mon entourage m'ont pas forcément encouragé dans cette démarche, évidemment. Et je me suis dit, le vin, c'est peut-être un petit peu plus porteur. Vivre de la photo, aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. Donc, j'ai réfléchi à ce projet de créer une enseigne de vin un petit peu différente de ce qui existe aujourd'hui. Donc, moi, étant originaire de la Bourgogne, évidemment, initié au vin de Bourgogne, j'aime beaucoup les vins du sud de la France, au sens large, que ce soit la vallée du Rhône, le Languedoc, la Corse, la Provence. Et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une enseigne où on va susciter un petit peu l'ouverture autour du vin pour essayer de proposer un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de consommer. Dans toutes les régions viticoles qui existent, que ce soit en France d'ailleurs ou même à l'étranger, il y a toujours ce chauvinisme très marqué et que je...
Et puis par chez nous, il est...
Il est assez fort. Il faut essayer de proposer autre chose. Le vin, c'est un monde d'ouverture. Donc moi, je me suis dit, je vais ouvrir une enseigne où je vais proposer l'intégralité du vignoble français en plein cœur de la vallée du Rhône. Donc du coup, un projet avec encore une fois une certaine petite folie. Donc je remercie pas mes amis qui ne sont pas mes amis, les banquiers qui m'ont pas suivi à l'époque pour financer mon projet. Par contre, je remercie l'association qui m'a financé mon projet pour démarrer. Et donc du coup, j'ai démarré mon projet en 2010 en créant cette enseigne Vin Authentique, en disant buvons du vin et pas des étiquettes, et essayons de s'ouvrir un petit peu au monde du marché du vin, tout au moins national dans un premier temps, aller découvrir un petit peu les différentes régions, différents cépages, etc. Moi, je mange pas du civet de lièvre tous les jours ou de la salade de carottes. Donc du coup, le vin, il s'adapte un petit peu à ce qu'on mange, et du coup, moi, je vais pas boire du Cornas ou du Saint-Joseph tous les jours. Parfois, j'ai envie de boire des vins plus légers, parfois des vins plus forts. Et donc, du coup, le projet, il s'est bâti comme ça. Alors, évidemment, l'accueil au début, c'est un petit peu bizarre, puisque vous avez les premiers clients qui arrivent et qui vous demandent du Saint-Joseph et du Croze. Et au début, j'ai fait le choix de ne pas en avoir volontairement pour susciter un petit peu l'intérêt, puis pour bousculer un petit peu les gens. Ce qui est intéressant.
Soyez curieux.
Soyez curieux et puis essayez de goûter autre chose, même si on va trouver des profils de vin qui vont ressembler à ce que vous avez l'habitude de boire. Et puis voilà, le projet se monte, ça démarre plutôt pas mal, dans le sens où j'avais quand même un réseau, puisque j'ai créé des clubs de œnologie dans la région, j'ai quand même des gens qui me connaissent, etc. Donc du coup, j'ai démarré mon projet relativement bien, ça a plutôt pas mal fonctionné. Et puis voilà, au bout de 4 ans, j'ai décidé de quitter le local dans lequel j'étais, petit local sur Chabeuil, pour créer et pour construire un bâtiment beaucoup plus important, pour développer l'activité bien sûr de toujours de vente de vin, mais aussi des activités autour des soirées. Donc on travaille avec des chefs pour faire des soirées avec un petit peu d'accord mets et vins. On fait de l'animation plutôt pédagogique aussi autour de cours d'œnologie, on fait des concerts, on organise là bientôt prochainement le 16 novembre une soirée un petit peu encore une fois atypique et un petit peu folle qui s'appelle la soirée anti-Beaujolais nouveau, une soirée dédiée au grand terroir du Beaujolais sans en présenter le support économique et le support commercial du primeur, voilà, du marketing. Donc du coup voilà, même si moi je défends tous les producteurs du Beaujolais, ils le savent d'ailleurs, voilà, j'ai jamais en 8 ans d'existence jamais vendu une bouteille de Beaujolais primeur, donc ne faites pas le déplacement pour ça, par contre faites le déplacement pour découvrir des grands vins
des vrais grands vins, et il y en a
énormément, tout à fait.
Alors, je profite pour te freiner un petit peu dans
ouais, ton moi, je suis un furieux, hein, donc faut m'arrêter parce que sinon je parlais jusqu'à 3h de l'après-midi. Hein.
Alors, on n'a pas jusqu'à 3h de l'après-midi, mais en tous les cas, c'est un parcours passionnant qui amène à ce métier de caviste. De chercheur, tu es devenu dénicheur.
Ouais, ça finit, c'est le même, ça finit par le même, par le même phonème en fait, mais c'est vrai que c'est pas
tout à fait pareil. Et puis finalement, c'est un peu la même chose, parce que quand on parle de dénicheur de bouteilles, c'est vraiment, tu es dans la recherche aussi, même si c'est pas la recherche fondamentale.
C'est vrai.
Mais en tous les cas, tu vas utiliser les mêmes leviers, on va dire, c'est-à-dire aussi la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'imagination, pour aller chercher des vins qu'on n'irait pas nécessairement chercher a priori, et puis dénicher, j'adore ce terme de dénicher.
Ouais, je trouve aussi que c'est
un joli mot. Alors, ton métier de caviste, donc tu nous as présenté un peu Vinauthentique et ce qui en est la particularité. Le métier de caviste, c'est quoi exactement?
Alors après, on peut l'aborder de manière différente. Hein. C'est vrai que dans le monde du caviste, aujourd'hui, on a 5 800 points de vente en France de personnes qui sont cavistes. On n'a pas besoin aujourd'hui d'une formation spécifique pour être caviste, hormis les autorisations légales, on va dire, pour vendre de l'alcool.
D'ailleurs, il faut passer des choses à passer, un diplôme.
Alors justement, non, il n'y a pas de diplôme. Aujourd'hui, c'est bien le problème. C'est pas le problème, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le consommateur, aujourd'hui, pour moi, il y a des marchands de vin et il y a des cavistes. Et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Je dénigre ni l'un ni l'autre des métiers, mais les gens qui sont des vendeurs de vin, donc ils achètent et ils revendent, ils connaissent pas forcément les produits qu'ils vendent. Ça, c'est si vous voulez, on va les estampiller de la même manière que les gens qui vont avoir la connaissance, qui sont la plupart du temps des anciens sommeliers, des anciens grands sommeliers. On en a retrouvé beaucoup d'ailleurs au concours du national du caviste à Paris en finale il y a quelques jours. Mmh. Donc du coup, c'est un métier relativement complexe si on veut maîtriser la totalité de ce qu'on vend et de ce qu'on met en avant. D'abord, le métier de caviste, pour moi, c'est un métier de conseil, c'est-à-dire que on doit être capable de se mettre au niveau de notre client, notre interlocuteur qui vient chez nous pour nous demander un conseil, parce que là, on est vraiment à essayer de décoder un petit peu les messages. Mmh. Le client, l'amateur de vin plus ou moins averti, va parler que son vocabulaire. Donc nous, notre objectif, ça va être de décoder ce vocabulaire pour essayer de comprendre ce que le client il attend de la bouteille de vin. Souvent, on est là pour conseiller un vin sur un plat, parce que souvent, bah, évidemment, le vin, on va le consommer avec quelque chose qui va être solide dans notre assiette. Donc du coup, on est pour la plupart du temps, on est vraiment des conseillers, des aiguilleurs. Et la première chose, moi, que je veux, c'est que mon client soit satisfait et que la bouteille que je lui ai vendue corresponde plus à son goût et pas à un nom ou pas à une appellation donnée. Donc du coup, ça, c'est notre première corde à notre arc. Après, il faut être un sélectionneur de vins. évidemment, ou de vins et de produits, puisqu'on ne sélectionne pas forcément que des vins d'ailleurs. Mais du coup, le travail de caviste, c'est un travail de fond, c'est-à-dire qu'il faut être curieux, vous l'avez bien sûr énoncé tout à l'heure, et il faut bouger. Donc moi, aujourd'hui, je bouge énormément à l'intérieur du territoire français, je fais 45 000 km par an, donc en étant ouvert du mardi au samedi, ça me laisse quelques jours de la semaine pour aller sillonner les vignobles. Il faut être curieux, aller chercher les vins et puis surtout connaître les produits qu'on vend. Moi, il n'y a pas un produit qui rentre chez moi que je ne connais pas, que je n'ai pas goûté. Et puis l'échange avec celui qui transforme. Faut pas oublier que le vin, c'est une transformation d'un fruit, le raisin. Et même si il y a de la technique, même si c'est un produit qui est réalisé avec de la technique, de la technologie parfois, c'est aussi une signature humaine.
Et pour moi, derrière chaque vin, il y a un vigneron,
exactement,
quoi. Ou une vigneronne.
Exactement. Ou une vigneronne. Et pour moi, il faut connaître cet ensemble-là. Moi, je ne travaille pas ni les vins de négociants, ni les vins de cave coopérative. C'est pas que je veux pas les faire, mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Il y en a beaucoup. Moi, je veux travailler plutôt les artisans, les gens qui ont besoin, les vignerons qui ont besoin des gens comme nous pour diffuser leurs produits.
Pour être des relais. Hein.
Les vignerons. Les bons vignerons, généralement, ils savent faire du vin, mais ils ne savent pas le vendre. Donc du coup, nous, on est
comme
là.
Comme les artistes en général.
C'est exactement ça. Donc du coup, pour moi, un vigneron, c'est un artisan et c'est aussi un artiste. Et nous, on est là pour pouvoir faire la promotion de ces vins. Les vignerons, ils ont parfois même pas conscience qu'ils font des produits d'exception, à des prix vraiment hyper raisonnables. Donc nous aussi, on se positionne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi comme positionnement, c'est d'aller sélectionner des producteurs qui ne sont pas visibles, des appellations qui ne sont pas visibles, et de les mettre en avant et de proposer à ma clientèle les choses sur l'originalité. Et bien souvent, comme on n'est pas sur de la notoriété d'appellation, on va se retrouver avec des produits hyper abordables en budget, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui où on veut consommer mieux, mais on fait quand même attention au budget qu'on y consacre, quoi.
Bien sûr. Et puis par obligation, souvent. Est-ce qu'il faut une licence? Parce que tu disais, c'est aussi c'est de la vente d'alcool.
Hein, bien sûr.
Est-ce qu'il y a une licence pour les bars?
Alors, du coup, si vous voulez faire de la vente sur place, de consommation sur place, là, effectivement, oui, il faut une licence. Donc, pour le vin, c'est une licence. Aujourd'hui, c'est une licence 3. C'était 2 avant, maintenant, c'est 3. Donc, c'est une licence qu'on demande. On demande une autorisation en mairie pour la consommation, vraiment. Alors, quand je parle de la consommation sur place, c'est la consommation qui est vendue sur place. Si vous faites une dégustation gratuite, chez un caviste, on a une tolérance. Aujourd'hui, c'est une tolérance. Hein. On peut faire déguster gratuitement du vin pour aider la promotion de certains produits. Là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de licence. Là, ce qui fait office de licence, c'est ce qu'on appelle le permis d'exploitation. Donc, le permis d'exploitation, c'est un document qu'on vous remet à l'issue d'une formation. Vous passez une formation que j'ai passée en 2010, donc je me souviens plus, je crois que c'est sur 2 jours, où vous êtes sensibilisé sur l'alcool, sur tout ce qui est les douanes, les problèmes d'alcool au volant, bien évidemment. On vous explique ce que vous encourez. Donc en fait, on est quasiment, quand on sort de cette formation, on se dit finalement, je crois que je vais pas faire ça. Parce que on vous rabâche que vous pouvez, si vous vendez de l'alcool à des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, etc., on peut vous emprisonner, on peut vous mettre des amendes, etc. Donc ça refroidit un peu, en fait. Donc il y a une grosse sensibilité sur la problématique de l'alcool. L'alcool aux mineurs, etc. C'est la seule.
Et un cadre juridique.
Voilà, c'est ça, exactement. On vous fait un petit peu peur, on vous fait prendre conscience un petit peu des dangers de l'alcool, d'être un petit peu, le conseiller, parce que du coup, moi, quand les gens viennent me voir pour une soirée, etc., moi, je leur donne les niveaux d'alcool qui correspondent au niveau d'alcool admissible pour reprendre le volant. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. On est là aussi pour faire de la pédagogie. Mais on n'est pas là pour faire du. On ne materne pas les gens non plus. Quoi. On fait de la pédagogie parce qu'un caviste, il se doit de le faire. Maintenant, on va pas materner les gens. Mais voilà, le seul élément qu'on ait besoin pour faire de la vente à emporter, je dis bien à emporter, c'est le permis d'exploitation qu'on vous remet à l'issue d'une formation de 2 jours. Voilà. Après, vous avez des licences spécifiques pour vendre de l'alcool après 22 heures, je crois. qui vous permet de vendre, voilà, de vendre de l'alcool encore une fois emporté. C'est une autre demande en fait qu'il faut faire aussi en mairie.
Très bien. Tu parlais tout à l'heure de la manière, enfin que le cœur, on va dire, du métier, c'est vraiment le conseil. On va dire qu'il y a deux cœurs. Il y a la recherche, il y a ce côté des nicheurs, et puis aller à les rencontres des vignerons et vigneronnes et d'aller à la rencontre des vins. Mais c'est aussi et avant tout être conseil sur un client. Alors parfois on vient chez un caviste parce qu'on y connaît strictement rien en vin. C'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'a absolument aucune connaissance. J'imagine que tu as beaucoup de gens qui arrivent en disant je voudrais acheter un bon vin.
Ouais, tout à fait. C'est le
Mais sans connaître plus. Et forcément, avec plein d'a priori, tu parlais d'étiquette, et avec plein d'a priori, si un bon vin, forcément, ça a tel nom. Parce que dans ces cas-là, on n'est pas nécessairement très à l'aise en tant que client. Il y a une espèce d'élitisme aussi autour du vin.
Alors que du coup, enfin, en tout cas pour ma part, moi j'essaye justement de décomplexer un petit peu tout ça. C'est pas parce qu'on fait pas de philosophie en commentant un vin qu'on n'est pas bon dégustateur et qu'on n'apprécie pas les bons produits. Donc du coup, moi c'est vrai que le client que vous citiez, c'est des clients que j'ai tous les jours, hein, des clients comme ça qui, voilà, j'y connais rien, je voudrais pas me tromper, je veux faire un cadeau, je veux avoir du bon vin à table ce week-end. Donc déjà, il faut essayer de comprendre quels sont les invités, quel est le menu, et puis aussi quelque chose de très important, parce qu'on n'a pas parlé, mais pour moi c'est aussi quelque chose d'important, le budget. C'est-à-dire que quand un client il me pose une question ouverte, systématiquement, je vais cadrer le budget, parce qu'en fait, on est conseillé jusque-là. C'est-à-dire que moi, si j'ai la capacité de positionner un vin à 30 euros sur un plat, si la personne n'en a que 10, je veux le savoir dès le départ. Et moi, je suis en mesure de proposer un produit qui va être du niveau qualitatif, mais aussi accessibilité sur le prix. Donc en fait, il faut bien sûr poser un certain nombre de questions pour essayer de comprendre un petit peu la philosophie. Est-ce que les gens ont l'habitude de boire? Parce qu'en fait, moi, j'essaye de savoir qu'est-ce que vous avez l'habitude de boire en blanc, en rouge, etc. pour essayer de comprendre un petit peu les goûts. Ça, c'est l'approche de la première fois. Et puis après, vous apercevez que les gens reviennent parce qu'ils disent ce que vous avez proposé, c'est original, etc. Ça fait parler autour de la table. C'est-à-dire que vous avez créé de l'échange, en fait, sans être là. C'est vachement important. Les gens qui vont au début être réticents à prendre un produit parce qu'ils le connaissent pas, ils vont s'apercevoir que c'est un produit qui est super, qui leur plaît. Et en fait, ils vont revenir l'acheter pour le faire déguster à un ami. Et donc, cet ami qui goûte le vin, mais c'est quoi ton vin? T'as pris ça où? Et donc, ce monsieur, il va revenir, j'ai goûté ça. Et donc, du coup, il y a une espèce de maillage qui se fait. Donc, du coup, on n'est pas dans le réseau social virtuel, mais on est dans le réseau social réel. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement valorisant. C'est vachement sympa de voir quelqu'un qui dit j'ai été chez un ami, on a goûté ça, on s'est fait plaisir. Le monsieur me dit, j'aurais jamais acheté ça instinctivement. Et là, j'ai été vraiment bluffé de la qualité du vin. Et puis après, quand il voit le prix, souvent il est doublement surpris. Donc voilà, donc nous, on est vraiment... le caviste, pour moi, il est là pour créer un maillage, pour créer un réseau, pour susciter de la discussion. Et du coup, on a un métier qui est vraiment magnifique, quoi, pour pouvoir... On travaille des produits nobles qui sont faits par des gens qui sont passionnés, parce que les vignerons aussi, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés. Et nous, on est un petit peu le relais entre le passionné dans sa cave, dans son coin, où il ne va pas forcément voir grand monde pour vendre son produit, et puis le client qui ne sait pas et qui a envie d'avoir un truc qui soit d'aplomb pour faire plaisir à ses amis ou sa famille. Quoi.
Bien sûr. Alors moi, je te propose de faire une petite respiration musicale.
Allez, on fait une respiration, pas de problème.
Et puis, on revient après et on va parler du concours. Et on va écouter tout de suite UB40 Red Red Wine, c'est l'actualité. À tout de suite.
Ok. It's up to you.
UB40, Red Red Wine sur Radio BLV 93.6 dans l'invité de 11h et quelques. UB40 que vous retrouverez au Théâtre Le Rhône à Bourg-les-Valence le samedi 8 décembre. Si, je vous assure. À voir s'ils ont toujours ce groove. Vous êtes dans l'invité de 11h et quelques, et aujourd'hui je suis avec Jean-Philippe Leroy de Caviste à Vine Authentique, Caviste et puis plein d'autres choses. On a pu le voir depuis ce début d'émission. Jean-Philippe, tu es là aussi parce que tu as participé au concours du meilleur caviste de France et tu es arrivé sur le podium, troisième sur le podium de cette année. C'était la première fois que tu participais au concours ?
Non, c'est la troisième fois que je participe à ce concours qui a lieu tous les deux ans. Donc les années paires. Donc la première participation c'était en 2014 avec une donc je vais vous expliquer comment fonctionne le concours, mais 2014 donc demi-finaliste, je suis pas allé jusqu'au podium et même pas en finale, mais du coup déjà demi-finaliste, j'étais plutôt très content pour une première participation. 2016 deuxième participation, j'accède à la finale en 2016. Bravo. Je n'accède pas au podium, mais bon, voilà, j'étais en finale, donc quelque chose de relativement encourageant sur la progression. Et puis 2018, donc là on sort depuis ça fait quoi, ça fait une quinzaine de jours qu'on a terminé la finale, et donc je termine sur le podium en troisième position, et on était deux Drômois sur le podium. Donc je félicite
ça
encore mon confrère Cyril qui est sur Pont d'Isère, qui a percé le concours et est arrivé en tête.
Alors ce concours du meilleur caviste de France, c'est quoi exactement là ? C'est pareil, on connaît assez peu, finalement.
Alors oui, c'est vrai que c'est un concours qui est pas très connu, qui commence à être quand même très très bien médiatisé. Il y a un gros travail professionnel. J'en profite pour remercier l'organisation de ce concours qui est vraiment quelque chose de très complexe et qui est énergivore et qui demande beaucoup de temps et aussi des financements, puisque les partenaires sont aussi très importants pour ce concours. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, du meilleur ouvrier de France, que ça soit sur la boucherie ou sur la sommellerie. On est sur l'objectif étant de mesurer les compétences des candidats, alors qui sont assez souvent finalement des anciens sommeliers. Pour la plupart des candidats, des anciens sommeliers et parfois même des anciens sommeliers de restaurants étoilés, une, deux, voire même trois. Et ce concours se déroule en trois étapes si on passe bien évidemment la qualification de chacune des étapes. Donc la première, qui se réalise généralement en début d'année, c'est une épreuve de présélection, donc où tous les cavistes, donc les 5800 points qui existent en France, sont potentiellement candidats et conviés à réaliser ce concours. Donc une présélection sur de la connaissance. Donc cette présélection se fait en région. Donc là, on n'a pas de déplacement dans la présélection. Donc il y a plusieurs centaines de candidats qui participent à cette épreuve. Donc des questions de connaissance. Donc vous avez un questionnaire de rapidité une partie sous forme QCM, une partie sous forme de développement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est rarement interrogé sur les vignobles ou les vins français. Mais on est plutôt interrogé, alors soit sur les petites appellations, je fais un petit clin d'œil à mon ami Patrick Jourdain qui réalise des questions relativement pointues, il nous secoue un petit peu sur les concours, donc ça c'est quelque chose d'assez sympa, et ça nous permet de voir que finalement, même si on a une grosse connaissance, en fait on ne connaît pas tout et on est loin de tout connaître. Donc du coup, souvent des questions sur les toutes petites appellations françaises qui vont faire 30-40 hectares, et puis après des questions sur les vignobles étrangers, les décrets d'appellation étrangère, les vins, les spiritueux, puisqu'on a aussi beaucoup de questions sur les whisky, sur les rhums, sur les gins, des questions sur la législation.
Effectivement, la cave, ça n'est pas que le vin.
Et oui, la cave, ce n'est pas que le vin.
On a le vin et spiritueux, comme on dit.
Exactement, vin et spiritueux. On peut être interrogé sur la bière, sur le cidre. On pourrait même parfois être interrogé sur le café ou sur le thé, puisque c'est des produits qu'on peut aussi également proposer en cave. Donc c'est relativement riche. On a même des questions sur de la gestion, de la comptabilité, puisqu'en fait, une cave, c'est une société. Donc il faut être capable aussi de gérer le côté finance, le côté achat, le côté stock. Donc du coup, cette sélection vous permet donc du coup au jury de sélectionner les 40 personnes qui sont arrivées les premières sur cette présélection. Et ensuite, donc on passe sur la phase de demi-finale. Donc on écrème évidemment plusieurs centaines de personnes pour arriver à 40 demi-finalistes. Où là, on réalise une épreuve généralement dans un lieu viticole fort. Donc cette année, c'était dans le Bordelais, Château Belgrave à Bordeaux, dans le Médoc. Donc la demi-finale se passe en deux temps. On a également une épreuve similaire à la présélection, épreuve de connaissance, où vous allez avoir pas mal de questions aussi de culture générale, donc comme je vous expliquais tout à l'heure. Des questions aussi sur les accords mets et vins. On va vous donner une recette de cuisine ou une bribe de plat, et vous allez devoir accorder le plat avec un produit. Alors parfois il y a des pièges, hein, évidemment, il y a des profils de plats qui ne s'accordent pas avec le vin, donc il faut évidemment le détecter. Cette année, une petite nouveauté, on a eu des photographies. Il y avait une photographie, il fallait dire quel était le vignoble, quel était le niveau de cru, si c'était en cru, premier cru ou pas.
Sur une photo,
oui. Donc donc relativement complexe quand même. Oui. Donc faut vraiment connaître. On a eu des questions aussi de gestion de comptabilité et puis bon après voilà des questions relativement pointues sur des climats. Donc un climat c'est quoi? Un climat c'est une zone géographique qui correspond à un terroir bien spécifique en termes de météorologie, de sol et de sous-sol. Donc notamment il y a énormément de climats sur la Bourgogne. Et donc, du coup, on vous donne des noms de climat, il faut sortir le nom de l'appellation et le nom du cru. Évidemment, on a tendance à connaître les grands crus, un petit peu moins les premiers crus, puisqu'il y en a beaucoup plus. Donc, question de culture générale relativement vaste, et sur tous les domaines. Donc, vraiment des questions relativement pointues. Et moi, depuis mes trois participations, je m'aperçois que le niveau, il est vraiment extrêmement montant. C'est-à-dire que l'épreuve de 2014 par rapport à l'épreuve de 2018, on est vraiment...
On est monté de plusieurs crans.
On est monté vraiment de plusieurs crans. Donc le concours, il devient vraiment très difficile. Et donc deuxième épreuve, qui est une épreuve très intéressante évidemment pour un caviste, c'est une épreuve de dégustation à l'aveugle. Où on vous propose différents produits, donc qui peuvent être du vin, des produits effervescents, des alcools, du cidre, de la bière. Et vous avez donc un temps relativement confortable, hein, très honnêtement, vous avez 10 minutes par produit pour analyser le produit, donc dire comment vous le ressentez d'un point de vue dégustation. Vous devez donner un élément, une recette pour pouvoir accorder le produit que vous avez dégusté. Vous devez l'identifier, si vous avez la capacité d'identifier si c'est un vin, les différents cépages, l'appellation, le type de terroir, le millésime. Si vous êtes en capacité de le faire, il faut le mettre, parce que évidemment ça vous fera des points en plus. Et puis quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais qui fait partie de notre métier aussi, c'est de donner le prix de vente TTC du produit. C'est-à-dire que vous dégustez un produit à l'aveugle, vous en faites un commentaire, et derrière vous avez la question de dire ce produit-là, combien il est vendu dans votre cave. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant comme épreuve. Donc voilà, cette année, on a eu un whisky écossais en dégustation, on a eu un produit effervescent et un vin rouge. Donc voilà. Donc une dégustation pour le coup sans réel piège, c'est-à-dire que voilà, si on a l'habitude de déguster, c'est quelque chose qui était accessible. Je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est jamais simple une dégustation à l'aveugle, mais c'est relativement accessible. Voilà. À l'issue de cette demi-finale, il y a une belle réception. Hein. Il y a un joli apéro, un joli repas, bien évidemment. On est reçu dans des conditions exceptionnelles. À l'issue de cette demi-finale, vous avez donc les 8 meilleurs qui sont qualifiés pour la finale, qui a systématiquement lieu à Paris.
D'accord.
Dans un lieu, dans un hôtel privatisé généralement. Alors moi, j'ai eu la chance de participer aux deux dernières finales. Et puis, vous avez systématiquement une personne, on va dire, relativement médiatique, connue, qui est parrain du concours. Donc, il y a deux ans, c'était François Berléand qui était parrain. Cette année, c'était François-Xavier de Maison. Donc, on avait un parrain vraiment super, un passionné de vin. On a vraiment bien échangé avec lui. On a rigolé. C'était quelqu'un de vraiment sympa qui nous a mis aussi relativement à l'aise, ce qui était plus difficile avec François Berliand. Moi, j'ai trouvé quelqu'un de beaucoup plus distant, beaucoup plus froid. Mais bon, après, voilà, c'est aussi des acteurs.
Chacun,
donc c'est
voilà,
des gens,
chacun a sa personnalité.
Exactement, hein. qui sont à leur niveau. Donc, la finale à Paris. Donc là, moi qui ne suis pas d'un naturel stressé, pour être très honnête, hein, je faisais pas le malin une heure avant de rentrer en scène, très honnêtement. Je suis quelqu'un qui dort énormément. J'ai pas trop dormi le dimanche soir là, à Paris, à l'hôtel, pour la veille du concours. Et puis du coup, pas très très en forme le jour J, parce que bah voilà, on est une deuxième fois en finale, donc on se dit bah on a une deuxième chance quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme, surtout moi avec mon parcours qui est quand même pas un parcours, je suis pas
oui,
issu.
Qui
est
un parcours atypique par rapport à des grands sommeliers.
Exactement. Donc du coup, je me dis j'ai aussi peut-être un message à faire passer moi dans cette finale, en étant voilà quelqu'un de passionné, de peut-être une approche un petit peu différente de la façon de travailler de mes confrères. Et du coup voilà, je me suis peut-être mis un petit peu plus la pression en me disant bah voilà, il faut peut-être que je sois à la hauteur et que je fasse du mieux possible. Donc voilà, donc du coup j'ai la chance d'être un des plus jeunes participants, donc j'ai eu la chance de tirer au sort mon ordre de passage dans les premiers, ce qui fait que j'ai tiré des bons passages plutôt au début, mais sans être le premier. Donc du coup, ça m'a permis de pas être trop dans l'attente à chacune des épreuves, puisque vous passez 4 épreuves lors de la finale. 4 épreuves, vous êtes 3 fois tout seul et on a une épreuve en commun, tous les cavistes. Donc la première épreuve, c'était une dégustation à l'aveugle de 5 produits. Par contre, là, vous n'avez pas 10 minutes, mais vous avez 1 minute 30. Et là, c'est plus du tout pareil.
J'imagine, oui.
Ouais, là, c'est plus du tout pareil. Et puis, vous êtes en live. C'est-à-dire que c'est une épreuve. Vous avez, je sais pas, 6-7 personnes dans le jury, plus le public, puisque c'est une manifestation qui est publique. Vous êtes bien sûr à l'oral, alors que la demi-finale, vous êtes à l'écrit. Et vous avez 1 minute 30 pour analyser le produit, dire ce que c'est, et sortir un accord mésévin et donner le prix. Donc, vous avez quasiment la même question qu'à l'écrit, sauf qu'à l'écrit, vous avez 10 minutes. Là, vous avez 1 minute 30. Donc du coup, c'est une épreuve qui est relativement complexe, mais qui fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire que même si vous ne trouvez pas le produit, vous pouvez le commenter de manière judicieuse. C'est-à-dire qu'un produit, vous dites comme il est, comment vous le ressentez, vous avez le droit de le commenter comme il faut, puis vous plantez sur le cépage, l'appellation, parce que c'est relativement compliqué, quoi. Donc avec le nombre de vins, vous pouvez être sur des vins étrangers, des vins français, etc. Donc c'est relativement complexe. Donc du coup, un petit peu de mal à mettre en scène sur le premier vin, un vin blanc qui était pas hyper expressif à mon sens, mais voilà, qui a été commenté avec justesse. Et puis on a commencé à apporter des produits que je maîtrise vraiment très très bien. Donc quand j'ai vu la couleur du produit, j'étais quasiment certain du cépage et même de l'appellation. Donc du coup, à partir de ce moment-là, moi, le concours a démarré. C'est-à-dire que je me suis vraiment mis dans l'idée que ben voilà, c'est accessible, c'est un produit que je connais, on a eu du cidre, c'est un produit que je travaille énormément, j'adore le cidre, j'adore les produits à base de pommes de manière générale. Donc du coup, voilà, donc vous êtes en scène et du coup, il faut garder une certaine concentration pour pouvoir détecter vos 5 produits à l'aveugle. Donc ça, c'est la première épreuve.
Une petite parenthèse quand même dans cette première épreuve, parce que dans le petit dossier de presse que tu as envoyé, tu parles de la négrette de Fronton.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, j'avoue ma méconnaissance la plus totale.
Ça, c'est pas un problème.
Qu'est-ce que c'est quand même? Bon, on peut en profiter parce qu'on parle de cave, on parle de vin, mais voilà, parlons aussi un petit peu de vin, profitons-en.
Exactement,
quand même.
Tout à fait. Alors, la négrette, c'est le cépage qu'on va trouver à 99% sur la région de Fronton. Donc, Fronton, c'est un vignoble qui se trouve au nord de Toulouse. Donc on est vraiment sur le vignoble toulousain. Donc l'appellation Fronton utilise majoritairement le cépage négrette, qui peut être assemblé avec d'autres cépages, mais qui est utilisé aussi parfois en monocépage. Donc c'est un cépage qui a énormément de caractères, des caractères de violette, des caractères de peau pourrie de fleurs, des notes un petit peu animales, des notes de cuir. Moi, certains vins me rappellent le côté souk Marrakech, quoi. Donc on a des vins qui ont beaucoup de caractères, qui sont pour moi des vins vraiment très intéressants. Je suis un passionné de ce cépage, donc j'en ai énormément dans ma cave. Le syndicat même des vins de Fronton me disait que j'étais un des plus grands ambassadeurs de la négrette en France. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une appellation qui est très très visible en dehors de la zone du sud-ouest et qui a énormément progressé. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a 25-30 ans, c'était des vins qui étaient vraiment médiocres, pas forcément bien travaillés. Moi, j'ai fait redécouvrir ce cépage-là des Toulousains. Qui avait complètement boycotté l'appellation.
C'était devenu une piquette infâme.
Voilà, exactement. Et c'est des produits qui sont très très intéressants, évidemment, sur les plats du sud-ouest, donc que ce soit des magrets de canard confit, que ce soit du cassoulet, des choses relativement rustiques également. Mm-hmm. C'est un cépage qui est vraiment super et qui peut être travaillé de différentes façons. C'est-à-dire que vous pouvez faire des vins plutôt sur la légèreté, facile, qui pourront être bu l'été sur un barbecue, et vous pouvez faire des produits divers qui vont rivaliser avec des Bordeaux de la zone Médoc, les Bordeaux les plus puissants. Donc du coup, c'est un vin qui a beaucoup de caractère, qui est très accessible et pour moi qui est très adapté au profil des consommateurs de Syrah que sont les consommateurs de la vallée du Rhône. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui cartonne, qui marche très fort chez moi, parce que les gens s'y sont habitués. Je dis pas que tout le monde aime ça. Il y a quand même 95% des gens à qui je le propose adorent. Il y a quand même 5% qui trouvent ça vraiment trop typé. Donc ça se respecte, évidemment. On est sur des vins de terroir. Mais souvent, les gens, ils sont curieux quand je le décris. Et souvent, je décris avec un gros...
J'avoue que là, tu aiguises ma curiosité aussi.
Voilà, décris ces produits-là avec un gros trait noir parce que je ne veux pas que la personne soit déçue. On n'est pas sur un vin de fruits. On n'est pas sur quelque chose qui va relater le fruit de cassis de la Syrah. On est sur quelque chose de beaucoup plus rustique. Donc du coup, voilà. Mais ça suscite la curiosité des consommateurs. Et souvent... la plupart des gens reviennent dessus.
Alors on revient sur nos épreuves de la finale de ce concours parce que le temps passe très vite. La seconde épreuve, c'est une simulation de vente.
Exactement, simulation de vente. Alors pour moi, c'est l'épreuve, c'est une épreuve qui est difficile. Alors elle est difficile pourquoi ? Enfin, en tout cas pour moi, pour un sommelier, elle est peut-être un peu moins. C'est parce que vous devez, donc du coup, devant votre client, qui n'est pas un client virtuel, puisque c'est François-Xavier de Maison, qui vous donne un scénario en fait de manifestation, en l'occurrence son mariage qui aura lieu au mois de juin, et en plus c'était pas de la simulation. Et du coup, il vous donne un menu, etc., avec certaines contraintes. Et vous devez donc proposer les produits en phase avec le menu, en respectant bien évidemment un budget et en respectant des contraintes qui étaient cette année de proposer uniquement un vin blanc et un vin rouge sur le menu, alors que le menu était quand même relativement large. Donc ça, c'est une épreuve qui est compliquée parce que vous devez proposer des produits, non pas sortir des appellations, mais sortir des produits avec les vignerons, les appellations, etc., les millésimes. Donc, il faut connaître l'intégralité de votre cave. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans votre environnement, vous n'avez pas vos bouteilles comme ça à l'approche. Donc, du coup, vous pouvez peut-être oublier un certain nombre de choses. Donc, c'est une épreuve, moi, que je prépare peut-être la plus pour vraiment avoir en tête les produits. Et puis, je me fais des petites simulations en se disant, peut-être on aura un menu végétarien et donc qu'est-ce qu'il faut positionner sur un menu végétarien. Donc, du coup, c'est une épreuve où il faut aller vite parce que c'est encore une fois une épreuve qui est rapide. Ça dure 6 minutes, je crois. Proposer des vins. Et là, alors moi, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je pensais que c'était un piège, en fait, nous proposer deux vins sur un menu relativement conséquent, sur un mariage où on a un gros budget. Je pensais que c'était un piège. Et donc, du coup, moi, j'ai argumenté pendant 2 minutes pour dire à monsieur de Maison en disant non, il faut élargir la gamme, il faut mettre plus de vin que ça, on va se faire plaisir, etc., etc. Et en fait, la contrainte, c'était vraiment ça. Il fallait aller chercher, par contre, l'apéritif, c'est-à-dire qu'il fallait accorder le menu, mais il fallait aller chercher l'apéritif et éventuellement aller chercher un vin de dessert et des après-desserts, soit sur du champagne, soit sur des spiritueux. Voilà,
donc grosso modo, élargir
un petit peu le profil de la soirée.
Alors, le troisième épreuve, présentation d'un produit sélectionné par le jury.
Voilà, donc là, du coup, on a une bouteille, à présenter. Donc, du coup, le jury choisit un vin et vous avez, je crois, 5 minutes. Alors, c'est la seule épreuve où vous avez une préparation. Donc, bon, moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi on a une préparation, mais donc, du coup, voilà, on a une préparation. Je préférais avoir une préparation finalement pour l'accord, mes vins, ou pour la simulation de vente. Pour le vin présenté, vous avez un vin, vous avez la possibilité de le déguster, de le commenter, et il faut dire un petit peu tout ce que vous connaissez sur le produit. Donc là, on était sur un deuxième vin d'un cru classé bordelais. Voilà, donc il faut décrire le vin, il faut bien évidemment le connaître à minima, le déguster, proposer un accord, mes vins. Donc, moi, je suis parti sur, et puis l'idée, c'est de promouvoir ce produit commercialement devant votre clientèle. Donc moi, je suis parti, étant dans la vallée du Rhône, voilà, le Bordeaux, c'est quand même pas des grosses ventes. Je suis parti sur l'idée de proposer à ma clientèle un vin de Bordeaux accessible relativement facilement, avec beaucoup de possibilités de plats. Donc j'ai énoncé beaucoup de plats relativement simples pour pouvoir accorder ce produit, en fait, quoi.
Alors ensuite, on a la question les questions de rapidité.
Ouais, alors la question
ça, on en a parlé un peu. Ouais. C'était la même chose, plus ou moins, que dans.
Exactement, plus ou moins, sachant que là, ils nous ont mis une barre vraiment extrêmement haute. Merci Patrick, encore une fois. Merci Philippe et puis Stéphane Alberti. Là, ils nous ont posé des questions vraiment. Enfin, moi, ça m'a fait sourire. Il y a des gens que ça n'a pas trop fait sourire lors de la finale, mais voilà, à un moment donné, c'est bien. Ça montre qu'on est.
Est-ce que tu as une question dont tu te souviens particulièrement?
Il y en a une que je me souviens particulièrement parce que je crois que j'ai été le seul à répondre correctement. Quel est le cépage le plus planté au monde? Donc voilà, ça je me rappelle très bien. Il y a eu une question pour la Drôme. Il y a quand même une belle question pour la Drôme et je pense qu'on a été que tous les deux à répondre. Quel est le nouveau nom de l'appellation Coteaux du Tricastin? Donc voilà, c'est Grignan les Adhémars. Voilà. Donc du coup, il y a des gens qui se rappelaient Grignan, pas forcément
des
Adhémars. Voilà. Et après, on a eu des questions sur les niveaux d'alcool, d'absinthe. On a eu des questions hyper techniques sur les niveaux les seuils de composants dans les vins à ne pas dépasser pour que ça soit vendable, etc.
Vraiment très très large.
Questions sur le vignoble ukrainien, questions sur le Liban, enfin voilà, des choses vraiment extrêmement pointues. Mmh. Mais voilà, c'est bien, ça nous remet aussi dans notre droit chemin.
Bien
et
sûr.
Puis, voilà,
on apprend toujours.
Et on en apprend tous les jours. Exactement.
C'est ce qui est intéressant. Et puis l'épreuve métier.
Voilà, alors qui est
un petit peu à part.
Qui est à part, mais qui fait partie de la finale, bien évidemment. On a une cinquième épreuve qui n'est pas réalisée le jour de la finale à Paris. C'est une épreuve, donc là, c'est vraiment l'épreuve, c'est notre épreuve, nous, cavistes. Hein, c'est un client mystère qui vient en caméra cachée chez vous. Donc, cette année, ils ont été vraiment très, très forts, puisque généralement, le client mystère vient entre la demi-finale et la finale, donc il vient chez les 8 cavistes qualifiés pour la finale. Donc vous avez potentiellement la date à laquelle vous savez que la période
ça va se dérouler entre temps et temps.
Donc du coup il y a 2 ans, moi la personne je l'ai identifiée parfaitement, évidemment. C'est pas pour ça qu'on joue un rôle différent. Oui. Hein. Moi
c'est pour se rassurer personnellement.
Ouais voilà et puis mais par contre cette année ils ont fait les 40 demi-finalistes, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des comédiens. Entre le mois de mai et le mois d'août, ou début septembre, pour aller chez les cavistes. Donc là, pour le coup, en plein été, tout le monde a du passage, tout le monde a des gens un petit peu à droite à gauche.
Voilà.
Donc c'est impossible de détecter, les comédiens. Et moi, évidemment, je ne les ai pas détectés non plus. Hein. Donc du coup, voilà, c'est bien d'avoir fait ça. Petit clin d'œil pour l'organisation, c'était vraiment, ils nous ont bien eu sur ce coup-là.
Et ce qui permet, là pour le coup, effectivement, un fonctionnement très.
Très transparent, de la façon de fonctionner. Quoi. Bon, après, moi, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi que je vais me transformer. Ce que j'ai à dire, je le dirai de toute façon. Donc, voilà,
mais bon, malgré tout, on a toujours petite différence dans le comportement, qu'on le veuille ou pas.
Tout à fait.
C'est tout à fait.
Tout à fait.
Mais
ouais, d'accord, ok. C'est l'heure de manger, peut-être, ça, ou l'apéro, je sais pas.
Merci beaucoup. Il est 57, donc effectivement, a été aussi dense aussi dense et passionnant que ce que tu as pu nous raconter de ton parcours. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir le bonhomme et puis surtout les vins qu'il porte, qu'il soutient, parce que c'est vraiment. Dénicheur de bouteilles, je trouve que le terme est très juste, et accompagnateur de toutes celles et ceux qui nous font ces beaux vins, ces beaux breuvages pour accompagner nos belles gourmandises, on va dire.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci à vous de m'avoir accueilli pendant cette petite heure.
Avec grand plaisir. Et puis pour nous, on se retrouve demain matin à 11h, comme tous les jours, du lundi au jeudi, dont l'invité de 11h et quelques. Au revoir.
On va continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.